premier coup. Fendant les airs avec un tranquille aplomb, au moment de porter ton premier coup, tu brandis ta hache, tel un maître dans l'art de glaner. Ceux devant qui tu parais t'admirent et redoutent ton prochain mouvement. Tu as l'équilibre et l'assurance d'un artiste exécutant parmi eux une danse brutale. Incandescente étoile entre les étoiles, ta robe cascade vers la terre telle une pluie d'or. Mais ce n'est pas la vérité. Peu importe ta valeur pour ceux qui maintenant comptent pour toi. En vérité, aux yeux de tes pairs, tu n'es qu'une infime tache solaire, une insignifiante mouchure. Et tandis que tu portes ce premier coup, ils se rient de toi. Tu tentes de t'élever au-dessus de leur moquerie, de te faire tant soit peu remarquer, de trouver grâce aux yeux des anciens qui jamais ne vieillissent, de gagner le respect des jeunes qui ont sacrifié leur propre jeunesse, de justifier l'arrogance qui accompagne la fierté d'avoir été choisi. Mais là non plus n'est pas la vérité. Des années passeront avant que la vérité t'apparaisse. Ceux que tu vénères ne sont que les serviteurs de la collectivité que nous élaguons. Ceux qui choisirent de nous laisser choisir, il y a si longtemps. Eux, les spectateurs admiratifs, terrifiés, soulagés, les véritables détenteurs du pouvoir, les marionnettistes de tes actions. Alignés devant eux, en formation parfaite, brandissant nos haches, tous semblables du premier au dernier, nous sommes un en tous. Nous sommes tous en un. Et nous allons tuer. Notre mantra, notre commandement, notre devoir, de rappeler aux immortels la mortalité. Leur enseigner que le repos éternel, même lointain, n'est pas perdu. Qui sommes-nous? Nous sommes les faucheurs. Et les armes que nous brandissons sont loin d'être nos amis. La force dévastatrice des balles, lames et matraques nous déchire chaque jour, jour après jour, morceau par morceau, et nous inflige des blessures incurables. C'est ce qui nous relie aux masses, mais nous empêche d'être des leurs. Et à chaque nouveau glanage, notre sang coule, et à nouveau, nous nous brisons. Pourtant, rien n'entame notre détermination. Car nous sommes les faucheurs. Rien ne changera jamais cette réalité. Et quand le temps sera venu pour toi de saigner, tu sauras et tu apprendras. Joel Schusterman. Formidable. « Ça prend du temps, Suzanne », lui avait dit Michael. « Bientôt, la fille que tu étais se fanera dans ta mémoire et tu habiteras pleinement et complètement ta nouvelle identité. » C'était facile à dire pour lui. Il était faucheur depuis 5 ans. Elle se demanda combien de temps il avait mis à s'habiter. Il était tellement Faraday, elle ne l'imaginait pas être quelqu'un d'autre. « Je suis Marie, pas Suzanne. » Elle était obligée de se le répéter constamment, parce qu'il ne s'agissait pas uniquement de se présenter sous le nom de Dame Curie, honorable faucheuse. Il fallait qu'elle commence à se considérer comme telle, à se sentir réellement dans la peau du personnage. Son image publique était une chose, mais l'intégrer mentalement en était une autre. C'était comme penser dans une langue étrangère. « Ça cessera d'être un rôle que tu joues, ça deviendra ce que tu es », lui avait assuré Faraday. « Et quand tu y parviendras, j'ai le pressentiment que tu seras formidable. » Cela dit, pour le moment, elle en était à des années-lumière. Ses premiers mois de glanage avaient été quelconques, utilitaires, fonctionnels. Elle faisait son boulot, mais elle était encore à la recherche du style qui la définirait. En attendant, elle se sentait déficiente, en errance. Voilà dans quel état d'esprit Suzanne, non, Marie, était arrivée au conclave des moissons l'année du Marlin. C'était son premier conclave en tant que faucheuse officiellement ordonnée. Elle pensait naïvement qu'elle serait mieux à son aise lors de ce grand rassemblement de faucheurs, maintenant qu'elle n'était plus une vulgaire apprentie. Elle n'aurait pas pu être plus loin de la vérité. Alors que la plupart de ses pairs se faisaient déposer par des véhicules sans chauffeur, des publicars ou des limousines, pour les plus matuvus, Marie était arrivée au volant d'une vieille Porsche de l'âge mortel qui lui avait été offerte par le fils d'un homme qu'elle avait glané. En descendant de voiture, plutôt que de la confier à un membre de la garde rapprochée des faucheurs, elle s'était tournée vers la foule massée là. « Quelqu'un ici sait-il conduire une vieille voiture non autonome, hors normes et à boîte manuelle ?» Très peu de mains se levèrent. Elle choisit un jeune homme qui devait avoir à peu près le même âge qu'elle. 19 ans, par là. Quand il réalisa qu'il avait été élu, il s'avança d'un pas aussi excité qu'un chiot. Elle crut utile de l'avertir. « Attention, ça envoie du lourd. »«
Oui, votre grâce. Merci, votre grâce. Je serai prudent, votre grâce. »
Elle lui donna les clés d'une main, puis lui tendit l'autre. Il s'agenouilla pour embrasser sa bague, ce qui fit glapir de joie une petite fille dans la foule.
« Laisse les clés à n'importe quel membre de la garde. Elles retrouveront leur chemin jusqu'à moi, » lui dit-elle.
Il s'inclina devant elle. Mieux, il lui fit la révérence. Elle se souvint qu'à l'origine, cette courbette était un témoignage d'allégeance à une figure royale. On offrait son cou à la décapitation. Certains faucheurs adoraient ces flatteries, mais Marie jugeait cela aussi ridicule que gênant. Elle se demanda si certains faucheurs avaient déjà décapité une personne qui se prosternait devant eux. Les faucheurs ont la prérogative de confier des tâches lambda à des gens lambda, lui avait dit Michael. Tout comme les faucheurs ont la prérogative de leur accorder une récompense pour service rendu. Elle avait fini par comprendre qu'il ne s'agissait pas de faire sentir sa supériorité, mais de justifier la grâce de l'immunité. C'est ainsi que Michael lui avait appris à transformer en gentillesse ce qui aurait pu n'être qu'un droit. Le jeune homme s'éloigna au volant du bolide et Marie se joignit à la parade. Car c'est bien d'une parade qu'il s'agissait. Le spectacle de faucheurs dans leurs robes chamarrées qui gravissaient les marches en marbre du Capitole de Fulcrum City. La montée des marches revêtait autant d'importance que ce qui se passait à l'intérieur de l'édifice. C'était le moment de rappeler au public combien la communauté était immensément inspirante, crainte et révérée. Une foule de spectateurs contenus par une aide d'honneur de la garde suprême se massait, comme toujours, de part et d'autre des marches, chacun espérant apercevoir ses faucheurs préférés. Certains jouaient le jeu avec leur public, d'autres non. Mais qu'ils distribuent sourires et saluts ou des regards noirs et glaçants, le spectacle faisait de l'effet. Marie gravit les marches sans s'adresser à la foule. Elle n'avait qu'une hâte, entrer dans le bâtiment et en finir au plus vite. Malgré le nombre de faucheurs qui montaient en même temps qu'elle, elle se sentit soudain terriblement seule. Elle n'avait pas anticipé la violence avec laquelle elle ressentirait cet isolement. Lors de ses précédents conclaves, elle n'était encore qu'une apprentie, et elle avait toujours été accompagnée par Faraday. Mais cette fois, pas un seul des faucheurs qui l'entouraient ne lui paraissait sympathique. Ils avaient été 5 apprentis à passer le test final au conclave vernal, 4 mois plus tôt. Marie avait été la seule à franchir l'ultime barrière de la sélection, la seule à être ordonnée. Ce qui signifiait qu'elle ne pourrait même pas retrouver de camarades parmi les autres débutants, parce qu'il n'y en aurait pas. Elle ne pouvait pas non plus fraterniser avec les apprentis en vue, parce que ça aurait été au-dessous de sa condition de faucheuse et mauvais pour son image. Quant aux autres faucheurs, ils étaient trop absorbés par l'adulation de la foule ou par eux-mêmes pour remarquer sa solitude intérieure. Ou peut-être la remarquait-il en y prenant un certain plaisir.
Non que les autres ne l'aiment pas,
mais il détestait le fait qu'un faucheur aussi jeune que Faraday, ordonné si peu d'années auparavant, ait pris une apprentie. De sorte que Marie faisait les frais de leur réprobation. Beaucoup d'entre eux se plaisaient à la lui faire sentir et la traitaient avec dédain. En cet instant même, il la gratifiait de regards en biais, comme s'il la blâmait d'avoir choisi un violet vif pour sa robe. Elle avait opté pour cette couleur éclatante afin de contrarier ses parents tonistes, qui abhorraient tout ce qui n'était pas dans les tons ternes, terreux, et maintenant, elle le regrettait.